Quand nous avons parlé du Christ, nous avons évoqué bien sûr son parcours historique. Jésus n'est pas pour nous une idée, ce n'est pas un mythe. Jésus a une vraie histoire humaine qui se conjugue de manière unique à la vie divine. Sa destinée humaine ne se termine pas à la mort. Elle ouvre un avenir dans la résurrection. Ce n'est pas seulement un phénomène personnel, individuel, c'est vraiment un monde nouveau qui commence à partir de Jésus ressuscité. Nous avons aussi parlé de Marie. Nous chantons qu'elle est la première en chemin. Comme première et plus parfaite des disciples, nous avons vu qu'elle a suivi Jésus jusque dans ce monde nouveau. Elle est entrée tout entière, corps et âme, dans la gloire de son Fils. Marie ravive notre espérance de parvenir nous aussi à cet accomplissement, nous qui sommes également sur un chemin de foi. Lors des dernières soirées, nous avons explorer un petit peu sous différents aspects comment l'Esprit Saint nous donne de vivre en connexion avec Jésus. Il est temps de parler de notre destinée à nous, chacun de nous, comment l'Esprit Saint nous conduit jusqu'au bout de ce chemin. Il y a une perspective à long terme pour notre histoire. Cette perspective s'inscrit bien sûr dans le mystère de notre relation personnelle à Dieu. Mais elle s'inscrit aussi dans le cadre de la destinée de tout l'univers. Alors avant justement de venir sur le chemin de chacun, sur notre chemin à nous, revenons d'abord sur le projet global de Dieu, sur l'histoire, en revenant d'abord à la personne de Jésus, à ce qui se passe en Jésus. Une fois ressuscité, Jésus n'est pas resté indéfiniment auprès des disciples. Il s'est manifesté librement à eux pendant 40 jours pour renforcer leur foi, pour parfaire leur formation. Mais sa place définitive est ailleurs. Il monte vers le Père. L'ascension du Christ signifie qu'il participe dans son humanité à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. Jésus-Christ est Seigneur. Il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté. Car le Père a tout mis sous ses pieds. Le Christ est vraiment le Seigneur du cosmos et de l'histoire. Le règne du Christ, son règne sur tout l'univers, n'est pas encore pleinement réalisé. Nous voyons bien que le monde, l'humanité en particulier, sont encore tout déréglés. Mais ce règne de Jésus se manifeste déjà dans les cœurs dans lesquels l'Esprit Saint rend présent la vie du Christ. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, qui est le germe et le commencement de son royaume sur la terre. Ce royaume, ce règne du Christ n'est cependant pas encore achevé dans la puissance et grande gloire, comme Jésus l'avait annoncé et promis. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont déjà été vaincues à la base par la Pâque du Christ. Pour reprendre l'image du Christ, de l'Église comme un corps, notre tête, le Christ, la tête du corps de l'Église est au ciel. Mais les membres ici-bas sont encore dans le feu de la passion. Nous gémissons encore dans les douleurs d'un enfantement jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et où la nouvelle terre, où la justice habitera. Lorsque nous prions le Credo, nous disons « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin ». Nous sommes sans cesse dans cette attente et ce désir de son règne glorieux. Nous prions pour hâter le retour du Christ selon sa promesse. quand nous prions dans le Notre Père, que ton règne vienne, nous demandons cette venue du règne du Christ. Quand nous célébrons l'Eucharistie, dès que Jésus arrive dans le sacrement de l'autel, nous disons, nous attendons ta venue dans la gloire. Ce sont aussi les dernières paroles de la Bible, la fin du livre de l'Apocalypse, « Viens, Seigneur Jésus ». Notre désir est profondément tourné vers ce moment du retour du Christ qui marquera la fin de cette phase de l'histoire dans laquelle nous sommes embarqués. Quand cela arrivera-t-il, ce retour du Christ dans la gloire? Depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Même si nous ne pouvons pas savoir le temps et l'heure, ce temps et ces moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Jésus nous a même dit que de lui-même, il ne pouvait pas, ça ne faisait pas partie de sa mission de révéler cela. Cet avènement peut s'accomplir à tout moment, même s'il est mystérieusement retenu, lui est l'épreuve finale qui le précédera. Alors ceux qui semblent retenir encore cet avènement, retenir selon la parole de saint Paul, c'est d'abord la conversion d'Israël qui a été annoncée et qui doit se réaliser d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie du mystère. Avant le retour du Christ, l'Église doit aussi passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Le catéchisme parle d'une forme d'imposture religieuse qui proposera aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'apostasie, la perte de la foi. Souvenons-nous de l'inquiétude formulée par Jésus. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le catéchisme nous dit encore, l'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Il y aura aussi une figure individuelle pour cet antichrist, précédé et accompagné d'une bête et d'un faux prophète. Ces personnes, ces éléments sont un peu mystérieux. Ils nous sont révélés par le livre de l'Apocalypse. Nous n'allons pas ce soir faire une lecture ou un commentaire de ce livre de l'Apocalypse qui est compliqué et délicat à interpréter, mais en tout cas nous sommes encouragés à être vigilants et attentifs aux signes des temps pour tenir ferme dans la foi. C'est ça qui est essentiel. Ce qui est clair, c'est que le royaume ne s'accomplira pas par un triomphe de l'Église, un triomphe historique de l'Église, mais par une victoire de Dieu sur un déchaînement ultime des forces du mal. Il y aura encore une catastrophe qui va arriver, dont le Seigneur sera vainqueur dans son Église. L'Église entrera dans la gloire du royaume à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Le jugement dernier, bien Jésus l'a annoncé dans sa prédication. Déjà les prophètes en avaient parlé du jour du Seigneur. Ce jugement du dernier jour, cette heure où seront mis en lumière la conduite de chacun et les secrets de tous les cœurs. Le Christ est Seigneur de la vie éternelle, le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartient à Jésus, à lui en tant que Sauveur du monde. Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver et pour donner la vie qui est en lui. Mais nous pouvons refuser cette grâce de la vie qu'il vient nous donner. Nous pouvons refuser le salut qu'il veut nous donner. Et c'est par le refus de cette grâce que chacun se juge déjà soi-même, que chacun peut même se condamné pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. Le jugement dernier ouvre cette dernière étape de la création. Il va inaugurer le monde nouveau, le monde transformé, le monde recréé. La même puissance que Dieu a déployée pour créer le monde, eh bien, il en usera pour le renouveler, et en particulier pour nous ressusciter à la suite de Jésus. Alors cette espérance de la résurrection corporelle nous vient bien sûr de Jésus. Nous voulons prendre la suite de Jésus. Mais ce mystère était déjà préparé dans la révélation avant Jésus. Dans les tout derniers siècles, avant la venue du Christ, à une époque de forte persécution religieuse, le livre des Maccabées atteste de cette espérance des Juifs dans la résurrection de la chair. Citation du livre. « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. » À l'époque de Jésus, les pharisiens croyaient en cette résurrection. Et Jésus a reproché à leurs opposants, aux sadducéens, de ne pas croire à la résurrection. Il y a un épisode important. Rappelons-nous aussi du dialogue de Jésus et de Marthe au moment de la mort de Lazare. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera » et Marthe répond « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Cette croyance était déjà fermement établie dans le judaïsme. La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu qui n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. Et il y a plus, Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne. Il dira justement à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui et qui auront mangé son corps et bu son sang. Nous ressusciterons comme lui, avec lui, par lui. Qui ressuscitera? Il faut poser la question. C'est en fait tout le monde, tous ceux qui sont morts qui ressusciteront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Comment ressusciterons-nous? Le Christ est ressuscité avec son propre corps, son vrai corps, mais il n'est pas revenu à la vie terrestre d'auparavant. De même en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant, mais un corps qui sera transfiguré en corps de gloire, en corps spirituel, comme dit saint Paul. Ce comment dépasse bien sûr notre imagination et notre entendement. Nous pouvons le rejoindre simplement dans la foi. Quand aura lieu cette résurrection? Et bien justement après le jugement dernier qui marque la fin de l'histoire. Alors venons-en à l'aspect individuel de notre destinée, car le Seigneur nous a donné une liberté à chacun, nous avons chacun un chemin, chacun une responsabilité de construire notre histoire, de choisir notre futur en lien avec le Seigneur. Alors pour chacun de nous, à moins que nous ne connaissions le moment du retour glorieux du Christ, et nous l'espérons, bien c'est à la mort que se terminera probablement notre pèlerinage terrestre. La vie terrestre est un pèlerinage, un temps de grâce et de miséricorde que Dieu nous offre pour réaliser son projet d'amour et pour décider de notre destin ultime. L'Église nous encourage toujours à nous préparer pour l'heure de notre mort, à demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous à l'heure de notre mort, car nous restons libres de nous déterminer tant que nous sommes ici-bas, corps et âme unis. La mort marquera justement la séparation de notre âme et de notre corps qui meurt, qui va se désagréger, et notre âme qui est immortelle, qui va se présenter devant Dieu. Alors dans le Nouveau Testament, quand il est question du jugement, c'est principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ, dans le jugement dernier. Mais à plusieurs reprises, il y a aussi cette conscience d'une rétribution immédiate après la mort. Et cela va dépendre justement de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. Il y a ce jugement direct, immédiat, qu'on appelle le jugement particulier. Il y a une destinée ultime de l'âme qui va être différente pour les uns et pour les autres. Chaque homme reçoit dans son âme la rétribution éternelle dès sa mort, dans ce jugement particulier qui réfère notre vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la joie du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Alors parlons d'abord du ciel, ce qui nous intéresse. Ceux qui meurent dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, ceux qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu, ils le voient tel qu'il est face à face. Cette communion de vie et d'amour avec la Sainte Trinité, avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints, c'est ce que nous appelons le ciel. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme. C'est l'état de bonheur suprême et définitif. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent, mieux, ils y trouvent leur identité définitive, leur nom unique, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Alors ce mystère de la communion bienheureuse avec Dieu et avec tous ceux qui sont dans le Christ dépasse un petit peu notre compréhension et même nos essais de la représenter. L'Écriture nous parle par plusieurs images, on essaie de nous décrire cette réalité par des images. Elle nous parle de cette vie, de cette lumière du ciel, la paix du ciel, le festin de noces, le vin du royaume, la maison du Père, la Jérusalem d'en haut, le paradis. Saint Paul nous dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Les mots, les concepts sont de toute façon trop faibles pour comprendre ce bonheur du ciel. Ce ciel est accessible depuis la résurrection du Christ. Dans le Credo, nous disons que Jésus est descendu aux enfers. C'est pour dire qu'il a rejoint tous les justes qui étaient morts avant lui pour les mener à leur accomplissement, pour leur ouvrir le ciel. Car c'est lui le sauveur de tous. Personne n'entre au ciel sans lui, sans le Christ. Alors nous croyons que la grâce rend possible d'entrer directement au ciel à la mort. C'est la destinée des saints, ceux qui ont collaboré avec la grâce pour que la vie du Christ prenne toute la place en eux dès ici-bas. C'est possible, mais ce n'est certainement pas le cas pour la plupart des hommes, car nous avons généralement beaucoup de retard dans ce que nous vivons par rapport au projet d'amour de Dieu sur nous. Ceux qui meurent dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, eh bien, il est nécessaire qu'ils traversent après leur mort une étape de purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Alors, l'Église appelle cette purification le purgatoire, cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Même s'il y a des choses un petit peu analogues, mais ça n'a rien à voir. C'est le chemin du salut, de ceux qui sont sauvés. Alors cette purification nécessaire, eh bien, elle était déjà présente dans la foi des Juifs à l'arrivée de Jésus, avant Jésus même. Dans le livre des Maccabées encore, que j'ai cité tout à l'heure, on trouve aussi l'attestation d'une prière pour les défunts, une prière pour les purifier du péché. Et dès les premiers temps, l'Église a tout de suite prié pour les défunts. Elle a honoré la mémoire des défunts et offert des prières en leur faveur, en particulier le sacrifice de la messe, afin que, purifiés, ils puissent parvenir au bonheur éternel. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences, nous y reviendrons, et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Car dans la communion des saints, les défunts nous sont tout proches, et entre nous, vivants et défunts, la charité se communique vraiment, l'amour circule toujours. Alors, quelques précisions sur cette purification de l'âme en purgatoire. La peine des défunts a deux aspects. Les théologiens distinguent deux aspects dans la peine. Nous parlons de la peine du dent, d'âme, et la peine des sens. Alors, la peine du dent, la damnation, damnation temporaire. Le dent, c'est le fait d'être privé de la vision de Dieu. Les défunts ne voient pas encore Dieu. Ils sont dans la foi et dans l'espérance, comme nous. Ils ne voient pas encore le Seigneur. Et c'est en fait le désir toujours grandissant de voir enfin le Seigneur qui les purifie le plus profondément. L'autre aspect, c'est la peine des sens. C'est en fait ce qui correspond à la pénitence dont ils ont encore besoin et qu'ils n'ont pas vécu ici-bas. Saint Paul parle du feu qui opère toutes les purifications, toutes les libérations que l'âme n'a pas faites volontairement et qui doivent être effectuées. Tous les attachements déréglés aux créatures, qui sont les conséquences de nos péchés passés, bien, ils doivent être purifiés pour que toutes les facultés de l'âme puissent s'attacher à Dieu pleinement et à lui seul. Alors, en purgatoire, il n'y a pas que la souffrance. Il y a surtout la joie immense et qui grandit sans cesse, la joie d'être sauvé et de devenir de plus en plus agréable à Dieu, celui qu'on aime. Alors, dans ce processus de purification, notre prière peut rejoindre ce que vivent les défunts. Dans la communion des saints, il existe entre les fidèles, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont en purgatoire ou ceux qui sont encore sur la terre comme nous, un constant lien d'amour et un abondant échange de tous les biens. Dans cet échange admirable de tous les biens, justement, la sainteté de l'un profite aux autres. Ainsi, le recours à la communion des saints permet aux pécheurs contrits d'être plus tôt et plus efficacement purifiés des peines du péché. C'est vrai pour nous qui demandons l'intercession des saints, mais c'est vrai aussi pour les défunts qui se purifient aussi. Nous parlions la dernière fois justement de la pénitence. Eh bien, la purification des péchés que permet la pénitence fait partie de ces biens qui nous sont partagés dans la communion des saints. Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l'Église. Ce trésor qui est le prix infini et inépuisable qu'ont auprès de Dieu les mérites du Christ, notre Seigneur, en tout premier. Dans ce trésor, il y a également le prix immense qu'ont auprès de Dieu les prières et les bonnes œuvres de la Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés dans la grâce de Christ, qui ont marché sur ses traces, qui ont accompli des œuvres agréables au Père. Ils ont travaillé à leur propre salut, mais aussi ils ont coopéré au salut de tous leurs frères dans l'unité du corps de l'Église. Donc ce trésor, nous l'avions déjà un petit peu évoqué la dernière fois, l'Église nous le communique d'une manière particulière dans les indulgences, en vertu du pouvoir des clés, le pouvoir de lier et délier que nous avons évoqué déjà. Ces indulgences sous forme de grâce que nous recevons dans cette communion des saints, nous pouvons les recevoir pour nous-mêmes, mais l'Église nous invite aussi justement à la recevoir pour les défunts, à l'appliquer aux défunts. Nous pouvons les aider en obtenant pour eux ces indulgences de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles qui sont dues pour leurs péchés, qu'ils aient ce complément dans leur pénitence, cette aide dans leur pénitence. Le mystère de notre liberté est grand, immense. Cela se manifeste dans le fait que tous n'entreront pas dans la plénitude du bonheur éternel. Des anges ont choisi de se fermer définitivement à l'amour de Dieu. C'est une perspective qui est également possible pour les hommes, car justement notre liberté est réelle, elle va jusque-là. L'enfer est possible et il n'est pas vide. Je cite Benoît XVI. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. La possibilité de l'enfer est le gage de notre liberté. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti, sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, bien, cela signifie demeurer séparé de lui, toujours, par notre propre choix libre. C'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu que l'on désigne par ce mot d'enfer. Ce n'est pas Dieu qui jette en enfer, c'est nous-mêmes qui créons notre enfer. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de cet enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort en enfer, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste dans le dent, mais le dent éternel, la damnation éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur. Sans Dieu, il ne peut pas y avoir ce bonheur pour lequel les hommes ont été créés. L'enfer est aussi ce feu, justement, qui dévore de douleur et qui tourmente éternellement. Il me semble qu'on peut le comprendre comme le feu de l'amour de Dieu quand il est subi par un cœur qui le refuse foncièrement. Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Et en même temps, c'est un appel pressant à la conversion, au sérieux de la conversion. Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui le prennent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. » Et il en est peu qui le trouvent. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu et y persister jusqu'à la fin. On ne tombe pas en enfer par accident, mais l'arbre tombe un jour du côté où il penche. Alors, nous avons terminer cette petite exploration superficielle, terminée par l'enfer, hein, parce qu'il faut en parler, on ne peut pas l'ignorer, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, et ce n'est surtout pas ce qui nous motive, car dans la foi, nous voulons unir notre vie à celle de Jésus, nous voulons le suivre vers la plénitude de la vie, c'est ce que lui désire aussi pour nous. Et ce que nous désirons profondément si nous écoutons ce que l'Esprit susurre en notre cœur. Dans la foi et l'espérance, faisons en sorte que l'amour prenne déjà toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Cet amour qui est la vie même de Dieu, qui qui est un avant-goût du feu qui brûle d'amour les saints au ciel. C'est aussi ce feu de l'amour qui nous purifie progressivement, car la providence fait du temps de notre vie terrestre le purgatoire dont nous avons besoin, si nous prenons bien au sérieux tous les enjeux de notre vie humaine. Dans chaque Eucharistie en particulier, Jésus nous fait déjà sentir la vie nouvelle, la vie impérissable qu'il nous donne. Dans la joie et la lumière de la foi, nous voulons donc avancer avec confiance vers le moment de notre rencontre avec lui, ce moment où, par notre mort, nous serons pleinement unis à sa mort. Nous espérons que son mystère pascal se réalise en nous et que ce passage de la mort soit la porte d'entrée vers la vie éternelle. Nous voulons dire avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus: je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Voilà quelques éléments que je voulais vous partager. Alors, pour compléter, je vous invite à lire l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance chrétienne, Spe Salvi, qui donne beaucoup de développement sur ces sujets-là. Sur mon site internet aussi, j'ai exhumé là récemment une ancienne conférence sur la prière pour les défunts. Vous la trouverez aussi éventuellement, ça peut être intéressant.